Bonjour à tous, merci de m'accueillir, merci de ton accueil Jean-Marc, et je vais commencer par raconter un petit peu comment tu es venu me voir, parce que c'était en octobre dernier, et tu m'as dit, pour la semaine thématique, cette année on va explorer le thème politique et religion, les chrétiens en politique. Alors moi je me sentais pas très à l'aise, je suis déjà venu une ou deux fois ici aux études bibliques, et mon propos d'aujourd'hui s'inscrit plutôt dans une perspective de témoignage de ce que je peux observer que d'une étude biblique comme tu l'as rappelé. Mais on était loin d'imaginer, toi comme moi à l'époque, que l'actualité rattraperait à ce point ce thème choisi par votre église. Déjà, il y avait eu les élections en mai et juin dernier, et puis depuis... on a eu différentes manifestations des chrétiens sur la place publique qui ont donné toute son actualité à ce thème. Alors vous l'avez bien compris, moi je ne suis pas chercheur, je ne suis pas un bibliste ou encore un exégète. Je vous confesserai même que je n'ouvre pas ma Bible tous les soirs. Par contre, c'est vrai, je suis un observateur depuis une dizaine d'années de la vie publique ici à Annecy. Puis de par mon métier, eh bien, je m'intéresse à ce qui se passe dans les médias. Je participe à différentes conférences régionales ou nationales où on travaille ces questions-là. On travaille notre métier, être journaliste dans un média chrétien. Qu'est-ce que ça nous dit? Quelle est notre responsabilité? Et puis deux mots de RCF, c'est pas le propos aujourd'hui, mais c'est une radio qui va avoir 30 ans et qui s'est donné pour mission de faire un programme généraliste, chrétien et grand public. Et de fait, souvent dans mon boulot, j'ai l'impression d'avoir un pied dans l'église et un pied dans la société, puisque nos programmes, c'est 30% de foi chrétienne. Et le reste, eh bien, c'est de traiter de tout ce qui concerne la vie des hommes dans la cité. Il faut tenir les deux, et je vous assure que c'est pas toujours de tout repos, et même parfois qu'on est très fatigué, heureusement, c'est pas tout le temps. On se dit que ça serait plus simple d'être d'un côté ou de l'autre, parce qu'on est souvent caricaturé, on vit aussi selon une tradition, et on aimerait bien nous mettre dans des cases, et moi je suis convaincu, et le fait est que je suis journaliste chrétien, mais je suis catholique, pour tout vous dire, que l'œcuménisme, j'ai l'impression que parfois il se pratique plus entre nos églises que dans la société. Quand je dis que ça n'a pas toujours été de tout repos, je me rappelle notamment du début du pontificat de Benoît XVI, avec notamment son interview dans l'avion, avec la question de la contraception, du préservatif, une petite dépêche AFP et les médias qui se sont enflammés, et même nous ici, ou même à la radio, on s'est fait interpeller, vous allez quand même faire entendre la voix des chrétiens de la base, c'est pas comme ça, voilà. Des moments assez délicats, avec beaucoup de passion dans le cahier de la radio. Il y a eu le discours de Ratisbonne, il y a eu ce rapprochement avec les traditionnalistes catholiques. Enfin, tous ces passages-là ont été un défi pour nous de comment le traiter. Parce qu'au-delà d'affaires qui pourraient paraître que religieuses, elle renvoie une image à notre société, elle l'interpellait. Et puis plus récemment, et ça va être encore le cas dimanche, ces manifestations pour le mariage pour tous, et là depuis quelques jours, eh bien, nous recevons du courrier à la radio, du courrier pas très sympathique, des gens qui aimeraient qu'on appelle plus clairement à entraîner les chrétiens à aller manifester encore et encore dimanche. Alors moi, dans ces cas-là, et puis je dois aussi tenir une équipe avec il y a des gens qui ont un parcours dans la foi différent. C'est une équipe plutôt jeune, donc comme partout chez les catholiques et sans doute chez vous, la transmission se fait de manière moins claire. Les modes de vie, la société a aussi changé, évolué. Donc il faut tenir ce qu'attendent les auditeurs, il faut aussi savoir proposer ça à nos équipes, un traitement. Et mon rôle, c'est, voilà, c'est d'avoir un pied dans la société, un pied dans l'église, être un petit peu à l'écoute du monde, et puis de revenir toujours aux fondamentaux, c'est-à-dire informer, voilà, factuellement, ce qui se passe. Moi, je me donne aussi comme mission d'élever le débat. Ce qu'on a essayé de faire là sur le mariage pour tous à la salle Pierre Lamy au mois de janvier, j'ai dû, voilà, avec différentes associations engagées sur le terrain de la famille, on a monté un débat. Il y avait 300 personnes qui se sont réunies à la salle Pierre Lamy pour essayer de parler de manière tranquille de cette question du mariage, de cette remise en question de cette institution, mais aussi avec à la tribune une personne qui est catholique, qui est homosexuelle, qui est pratiquante et qui a dit aussi son besoin de reconnaissance. Voilà, informer, élever le débat, et puis donner la parole aux chrétiens. C'est un petit peu dans ce cadre-là que je travaille. Et c'est avec ce pied dans l'église, ce pied dans la société que, voilà, j'essaye d'être bien dans mes baskets. Et c'est un grand écart, et on essaye de pas risquer la déchirure. Après cette introduction, deux choses, puisque notre thème c'est quand même la politique. La politique dans notre pays se résume au bipartisme, enfin au bipartisme, peut-être pas au bipartisme, mais à deux grandes familles, droite et gauche. Moi, ce qui me surprend aussi, c'est le courrier qu'on reçoit parfois à la radio sur une même émission. Ah non, mais vous changerez jamais, hein. Vous êtes vraiment une radio de gauche. Et autre courrier sur la même émission, de toute façon, c'est bien RCF, les cathos, on sait bien que vous êtes de droite. Alors, au-delà d'appréciation d'auditeurs qui marchent sans doute parfois peut-être trop à l'affectif, mais il n'y a pas que les auditeurs, il n'y a pas que les gens de la base. Moi, avant d'être rédacteur en chef de RCF, j'ai parcouru un petit peu notre belle ville d'Annecy au contact de personnalités politiques locales, alors plutôt de l'ancienne génération. C'est vrai que dans la nouvelle génération, il y a peut-être plus aussi un respect, je dirais, de notre métier de journaliste. Il y a peut-être moins... on mélange peut-être moins les choses aujourd'hui avec cette nouvelle génération. Mais bon, sur l'ancienne, il y en a encore qui sont là, hein, qu'ils soient députés ou sénateurs. C'est les grandes tapes sur l'épaule et on vous dira, vous savez, moi je suis un vieux chrétien, je suis de votre côté. Mais si vous pouviez parler de ça, ça serait quand même bien. Voilà. Voilà. Cela dit, passer ce propos un petit peu introductif... Je vais vous faire partager quelques observations qui régissent aujourd'hui. C'est vraiment aujourd'hui, c'est pour ça que voilà, je suis venu à l'invitation de Jean-Marc, on s'est revu une ou deux fois, mais je lui ai vraiment dit que moi je m'inscrivais dans ce que je vis, de ce que j'observe aujourd'hui, des rapports entre les croyants au sens large, quelle que soit leur responsabilité, et la notion politique. Et premièrement, moi, ce que j'ai envie de dire, voilà, sur 10 ans que je suis un petit peu les élections, c'est qu'il n'y a pas de vote chrétien. Moi, j'analyse pas. Voilà. Il n'y a pas de vote chrétien. Il y a des votes, et puis il y a des chrétiens. Et suivant les périodes, suivant les enjeux, le suffrage des chrétiens penchera plus vers tel courant, plus vers tel candidat. Moi, de mon point de vue, la Bible n'est pas non plus un programme politique. Oui, un programme de vie, une école d'humanité, il insiste sur l'attention aux plus fragiles, aux plus pauvres, il invite au respect de l'autre. Mais après, à chacun de juger en conscience, qui incarne le mieux ou le moins mal parmi les offres politiques, ses exigences. Il n'y a pas de vote chrétien, donc pour moi, il n'y a pas de vote catholique ou protestant. Avant de venir ici, j'ai encore regardé selon les chiffres qui nous étaient donnés, même si c'est vrai que pour les protestants c'est un petit peu délicat compte tenu de la technique des sondages et qu'il faut une certaine représentativité, mais on a quand même quelques bases. On peut pas dire aujourd'hui dans notre pays qu'il y a un vote catholique ou protestant. Par contre, quelque chose que moi j'observe, et là on n'est pas dans le sondage, on n'est pas dans l'analyse de résultats électoraux, il y a quand même une manière chrétienne de faire de la politique. Autre observation, j'ai pas l'impression, moi, qui fréquente l'église catholique d'Annecy, un petit peu moins, mais quand même l'église protestante, ou qui, dans le cadre de RCF, on a des représentants dans nos instances de l'église réformée, enfin, maintenant c'est un nouveau nom, vous m'excuserez, mais l'église réformée de France ou l'église catholique, on a des représentants, pas l'impression que l'église ou les églises sont des partis, qui n'a pas de formation, qui n'a pas de, de candidat aujourd'hui, qui peut prétendre monopoliser les valeurs chrétiennes. En France, les évêques ne donnent plus de consignes de vote, mais c'est vrai, moi je constate quand même un certain regain de la chose politique. Certains évêques que je connais tiennent en haute estime la politique avec un grand P. Hein. Là, je me place en dehors de l'offre qui peut être faite à un moment d'une campagne électorale. Voilà, le service de la cité, l'engagement pour une société plus humaine sont des choses qui redeviennent à la mode, peut-être que le mot est mal choisi, mais qui sont souvent citées par certains prélats. Alors, moi je vois plus une église aujourd'hui, si je me situe toujours hein, dans ces deux dernières années, enfin 2007 la première présidentielle jusqu'à la dernière, je vois plus une église ou des églises qui prennent la parole dans le débat public pour ouvrir des pistes de réflexion aux citoyens avec différents documents. Servir le droit, combattre la domination de l'injustice, il y a toujours eu, mais il me semble un certain regain d'intérêt d'un souci chrétien du bien commun. Mais bon, je le redis, moi je vois pas un vote chrétien, même si certains aimeraient nous le faire croire. Alors si les églises donnent pas de consigne de vote, elle n'en rappelle pas moins les principes fondamentaux de la morale chrétienne. Alors là, j'ai plus d'éléments du côté catholique que j'ai plus observé ces derniers temps. Je prends un document qu'à l'époque on nous avait fait étudier dans une formation de journaliste, un document qui est de 2002 et qui précise, qui énumère des points, qui de point de vue en 2002 de ceux qui réfléchissaient au sein de la conférence des évêques de France était non négociable. Je mets non négociable entre guillemets parce que ce n'est pas présenté exactement comme ça. Mais je l'ai retenu et je l'ai compris ainsi. Alors je vais vous partager ces points. Hein. Il y avait la défense de la vie, de la famille, de la liberté d'éducation, de la protection sociale des mineurs. C'était formulé ainsi. Hein. Alors ça c'est moins connu, mais la protection sociale des mineurs. De la liberté religieuse, du développement d'une économie au service de la personne et du bien commun. Et enfin, la recherche de la paix. Alors, est-ce que ces points définissent un programme ? Faut-il s'interdire de voter pour un parti qui ne respecterait pas l'un de ces aspects ? Un peu plus loin, le texte insiste sur, je cite, « la légitime liberté qu'ont les citoyens de choisir l'option politique qui, selon leurs propres critères, correspond le mieux aux exigences du bien commun ». Et là, on va voir un peu plus loin. Je vous ferai partager quelques témoignages d'élus, je dirais pas leur nom, mais que j'ai pu côtoyer. On verra que chacun peut trouver sa manière de s'engager, mais au nom de la même foi. Alors, au-delà de ces principes fondamentaux, il y en a d'autres, si on va un peu plus loin, que là on se situe dans une pensée plus moderne de l'Église. Là, je m'appuierai sur la lettre encyclique Rerum Novarum, les choses nouvelles de Léon XIII, qui a inspiré la doctrine sociale de l'Église, qui s'épanouit en 21 textes. Et là, on va nous dire qu'il y a des principes clés qui restent intangibles. Et on retrouve toujours en premier la recherche du bien commun, la charité, la destination universelle des biens, l'idée que la propriété privée ne donne pas tous les droits sur les biens. Il y a la dignité de la personne humaine, il y a la justice, il y a l'option préférentielle, ça c'est pour les pauvres, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent. Autrement dit, choisir la décision politique la moins dangereuse pour les plus faibles, la solidarité, puis enfin quelque chose qui est un peu moins connu, la subsidiarité, c'est-à-dire essayer de prendre les décisions plus près des parties prenantes. Donc là, à travers ce dernier critère, il est important que les chrétiens s'engagent aux politiques parce qu'ils ont des choses aussi à faire remonter, ils doivent être au contact des réalités. Sortons de ces textes, les chrétiens aujourd'hui, pour moi, ne sont pas, je dirais, enfin, quand moi on parle de chrétiens et politiques, je ne prends pas le mot politique que comme un élu. Il y a aussi aujourd'hui des chrétiens qui ont un rôle de sentinelle. Quand l'Église appelle à l'engagement des laïcs dans la vie politique, l'Église, elle souhaite voir des fidèles intégrés à les structures des États, mais bien sûr, mais au-delà, peut-être plus simplement, s'intéresser au débat en cours. C'est là où je dis que les chrétiens aujourd'hui ont vraiment un rôle de sentinelle. parce qu'ils sont souvent engagés dans des associations, ils ont une bonne connaissance du terrain, leur réseau, leur capacité à faire discuter ensemble des gens de bord politique différents font des chrétiens moteurs de l'action sociale. Alors ils ne confessent pas forcément qu'ils sont chrétiens, ou ils ne le disent pas au premier abord, mais forcément qu'on est journaliste de RCF, qu'on en est à la quatrième ou cinquième rencontre parce qu'on fait des interviews, ils vont vous glisser tranquillement off, vous savez, moi, mon engagement aujourd'hui, je le puise dans mon éducation, dans mes racines, dans une certaine conception de l'homme. Il y a un bouquin que j'avais lu il y a 2-3 ans qui s'appelle les réseaux cathos. Le journaliste s'appelle Marc Baudrier, et il s'est attaché à montrer un peu à contre-courant, qu'on dit aujourd'hui que les églises n'ont plus de poids dans les débats, c'était à montrer que les catholiques, malgré tout, continuent d'influencer le débat public sur différentes choses. Alors son quatrième de couverture, j'aimais bien, c'est pour ça que je vais vous le partager. Les catholiques ont changé, puisque c'était les réseaux cathos son bouquin, donc c'était les catholiques. Les catholiques ont changé, majoritaire, ils voulaient autrefois changer l'Église, devenus minoritaires, ils rêvent maintenant de changer le monde. Alors je trouvais ça sympa, donc j'ai acheté le bouquin. Alors je vais pas vous le lire, mais je vais vous en faire un petit résumé, parce que je trouvais ça intéressant. Alors on disait que... Je trouvais que c'était un message d'espérance assez intéressant. Alors l'idée d'un réseau catholique en France, bon, ça, c'est une vieille terre chrétienne, donc ça peut paraître aussi incongru qu'une association de démocrates aux États-Unis ou de communistes en Corée du Nord. Et pourtant, les catholiques pratiquants, là aussi, là, je regarde les chiffres, les derniers chiffres qui m'ont été présentés il y a encore 3 semaines à Paris. Les catholiques pratiquants, c'est une infime minorité de la population française, mais infime. Et encore, il faut s'entendre sur le mot pratiquant. L'Église, par un tour de passe-passe, change la définition du mot pratiquant pour essayer de garder des parts de marché, entre guillemets. Bon, je ne sais pas s'il faudra le laisser sur le site, ça, Jean-Marc, mais bon, on verra. Je vous parle comme on me l'a présenté. Les plus jeunes cathos que je fréquente se considèrent avec lucidité comme un peu comme des membres isolés d'une communauté fragile. Mais comme tous les minoritaires, me semble-t-il, ces catholiques-là, ils éprouvent l'urgente nécessité de s'appuyer sur une identité forte pour exister, survivre, rester tournés vers les autres et améliorer la société dans laquelle ils vivent. Ils ont changé, ils sont peut-être plus conscients, plus convaincus, ils se mobilisent plus facilement. Alors certains diront pour le meilleur ou pour le pire, mais bon, ils se mobilisent plus facilement. Enfin, le mariage pour tous est un bon exemple, même si l'Église ne voulait pas être en première ligne. On voit bien quand même, ce sont des croyants, et notamment des catholiques, qui sont dans ces manifestations. Et puis, il faut leur reconnaître quand même une efficacité un petit peu nouvelle. Voilà. Quoi qu'on pense du débat. Et ce gars-là, là, Marc Baudrier, donnait des exemples sur ces 20 dernières années où qu'on avait bougé ses réseaux, ça avait pu faire avancer certains débats. Je me rappelle que le scoutisme, à un moment donné, était menacé de disparition, enfin le financement. C'est une campagne à l'Assemblée nationale, petit groupe de députés chrétiens qui a su agiter ses réseaux et faire qu'on n'a pas fait la modification de loi et que le scoutisme, ça fonctionne encore pas mal. Mais bon, voilà, c'est une sorte de réseau catho derrière qui avait réussi à faire que ce texte de loi soit légèrement modifié. Autre chose, le lundi de Pentecôte, rappelez-vous, là en plus c'était Raffarin qui se dit catholique, le Premier ministre, une certaine mobilisation contre la suppression de ce lundi de Pentecôte. Mobilisation aussi plus récemment pour limiter les conséquences du travail du dimanche. Là c'est plus dans le monde des médias, mais pour sauver Témoignage Chrétien. Témoignage Chrétien, qui est un journal assez progressiste, connaît pas mal de difficultés financières, et là aussi, on a agité certains réseaux, le Témoignage Chrétien existe sous une nouvelle forme, certes, mais est encore là. Toujours dans le monde de la presse, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de négociations aux coulisses pour faire du Monde le propriétaire de Télérama. Mobilisation aussi tout azimut pour transformer une quasi-ruine, pour ceux qui connaissent peut-être, on est à Paris, là, l'ancien collège des Bernardins à Paris, que j'ai visité pareil lors d'un congrès des radios chrétiennes de France. Donc là c'est toutes les radios chrétiennes, qu'elles soient catholiques ou non, enfin, voilà. Et ils nous avaient emmené là 3-4 mois avant l'inauguration, et ils en ont fait un foyer ultra moderne de foi et de culture, où le pape est venu, Benoît XVI, avec la fine fleur de la société française. Mais au-delà de ça, pas tous les jours, mais enfin toutes les semaines, il y a des débats qui mettent en perspective une certaine intelligence de la foi et en dialogue ce que pensent les religions et des choses qui sont de l'ordre des questions sociales, économiques et politiques. Alors au cœur de ces campagnes, fort de leur idéal, ces chrétiens, souvent inconnus du grand public, ont su trouver le soutien de différentes personnalités, avec d'hommes de médias, avec un certain pouvoir, des capitaines d'industrie aussi, d'acteurs de la société civile. Au-delà du nombre d'élus qui se revendiquent comme chrétiens, puis bon, on y viendra un peu plus tard, c'est pas évident en France d'ailleurs de se confesser comme élu et chrétien, il y a aussi cette notion du poids politique. Et moi, je vois dans différents domaines les chrétiens qui sont de retour. Alors peut-être pas des chrétiens en termes de pratiques religieuses, mais en termes de convictions, une sorte de nouvelle visibilité qui s'invente, des chrétiens qui se frottent sans peur aux réalités du monde. Alors j'ai essayé d'identifier un petit peu ces sphères de ces chrétiens. J'ai un peu joué au jeu des sept familles pour voir qui sont ces groupes qui ont un poids politique aujourd'hui. Alors il y a les engagés en politique, en économie, dans le domaine de la justice, de l'environnement. Il y a pas mal de chrétiens qui sont là aux manettes, qui veulent favoriser le dialogue, qui développent un sens du service public, reconnu et apprécié d'ailleurs par les temps qui courent, où il y a une sorte de défiance vis-à-vis de la classe politique. Même si c'est pas tout repos, il y a des enjeux qui sont de taille, il y a des questions de justice sociale, définition de la famille, on n'y revient pas, défense des plus démunis, des questions sur les limites de la laïcité à la française. Alors ces chrétiens engagés, on les voit comme des empêcheurs tournés en rond, ils sont parfois marginalisés dans les débats publics, mais ils jouent un rôle de veille, ils participent à la réflexion générale, apportant un éclairage apprécié, comme par exemple sur la crise financière ou sur les lois de bioéthique. Enfin, je me situe là il y a 2 ou 3 ans, il y a tout un travail des églises qui a été fait sur les lois de bioéthique, des états généraux, avec différents débats qui ont été organisés aux quatre coins du pays. Et c'est là où ça nous a donné le rapport Leonetti, qui vaut toujours aujourd'hui, alors même s'il va être rouvert, et un bon consensus qui avait été trouvé. Et dans le domaine économique, on voit pas mal de dirigeants confesser une certaine idée du management en fonction de leurs valeurs. Proche de chez nous, il y a Danone, avec ses groupes à Evian. Emmanuel Faber, qui est le vice-président du groupe agroalimentaire Danone, 100 000 personnes employées dans le monde quand même, et qui a publié différents ouvrages, qui a différentes prises de parole, et qui invite à vivre l'économie autrement. C'est assez étonnant qu'on ait numéro 2 de Danone. C'est une sorte de prise de risque pour lui de confesser ça. Voilà, Emmanuel Faber, c'est quelqu'un qu'on voit un petit peu monter et qui est de la région. Alors, il y a les engagés, il y a les inspirés. Ils sont quelques-uns encore à partager une certaine attention à la vie spirituelle ou à faire vivre, à être des guides pour les communautés chrétiennes. Alors, il y a moins de grandes figures, il n'y a plus l'abbé Pierre. Mais il y a encore des hommes et des femmes de foi qui sont respectés, qui sont même enviés. Sont habités par l'esprit, propulsés, j'aime bien ce mot-là, propulsés par l'évangile et le partage, alors de manière différente selon les générations. Les plus aguerris, on pourrait citer quelqu'un comme le curé Guy Gilbert, mais je vois le frère Aloïs, le successeur de frère Roger, à la tête de la communauté de Thésée, ou encore Jean Vanier, qui est fondateur de l'Arche, qui accueille dans une petite communauté des personnes déficientes intellectuelles. Et puis il y en a d'autres, là où ils vivent une spiritualité peut-être enfouie, intime, une sorte de petite musique, mais il y a après ce qu'on appellera du côté catholique la génération un peu Jean-Paul II, les JMJistes qui ont rendez-vous au Brésil en juillet prochain. Alors là, c'est plus militant, c'est plus démonstratif. Alors les engagés, les inspirés, il y a aussi les fraternels. Là, c'est une vocation plus active, participative, concrète. Beaucoup de causes, il y a beaucoup d'organismes aussi. Une fois agissante, j'aime bien cette expression, une sorte de cheville ouvrière de la charité. Voilà, tous ceux qui travaillent dans les organisations caritatives, particulièrement sollicités aujourd'hui, parce que il y a les effets de cette crise. Donc le travail ne manque pas. Il y a l'énergie d'un François Soulages du Secours catholique, là, qui était à Annecy mardi dernier. Il y a la révolte du frère Alain Richard, qui est le fondateur des Cercles de Silence. Et puis il y a ce travail discret, dizaines de milliers de bénévoles, pour qu'il y ait plus de justice. Et puis l'action caritative, me semble-t-il, est enracinée dans l'évangile. C'est une aide sociale, un chemin fraternel. Après, il y a les penseurs aussi. Alors, il y a les théologiens, les sommités ecclésiales, mais il y a aussi des intellectuels catholiques qui s'engagent de plus en plus, me semble-t-il, qui nourrissent la réflexion des croyants et interviennent dans le débat d'idées. Il y a l'académicien, par exemple, Jean-Luc Marion, qui est reconnu internationalement. Il y a Fabrice Hadjadj, pensée malicieuse de Fabrice Hadjadj. Il y a des intellectuels catholiques qui retrouvent leur place dans les débats. Il y a Jean-Claude Guigaud, qu'on lit ses papiers dans la vie. À tel point que d'autres, qui sont plutôt en recherche, comme Luc Ferry, André Comte-Sponville, s'intéressent à la spiritualité et viennent concurrencer presque les catholiques sur leur terrain. Ils ont un vrai succès de librairie dans leurs conférences. Mais après, il y a les créatifs aussi, pour un certain poids politique, parce que la politique, voilà, vous avez bien compris, elle est prise au sens large. Des chanteurs, des comédiens, des écrivains, la foi qui est une source d'inspiration incontestable, pas toujours avouable, parce que voilà, les milieux artistiques restent sans doute encore un peu fermés aux chrétiens créatifs, mais bon, ça bouge quand même. L'art qui est un espace privilégié d'expression de la foi, ça depuis tout temps. Et moi, j'ai l'impression que les chrétiens, dès l'espace domaine, alors même s'ils veulent d'abord être reconnus pour leur talent, bah voilà, ces milieux artistiques, littéraires, qui ont encore la critique dure envers ceux qui croient, me semble-t-il, sont un peu plus tolérants. Alors il y a des figures comme Robert Hossein, qui a mis en plusieurs fois il a représenté le Christ sur scène, c'est des grands succès. Il y a Arcabas, voilà, ce peintre que moi j'aime bien, dans les Saint-Paul de Métay, on peut voir quelques-unes de ses œuvres. Aussi une empêcheuse un peu de tourner en rond, qui s'appelle Alix de Saint-André, qui est une pèlerine impertinente, qui vient de Canal+. Elle était dans l'émission Nulle part ailleurs, et elle était encore à Annecy la semaine dernière, invitée par l'association Histoire d'en parler, elle a fait 3 fois Compostelle. Puis il y a Christian Bobin, cet écrivain, qui fait partie des 10 écrivains les plus lus en France aujourd'hui. Il y a la famille des médiatiques. Alors là aussi, comme dans le milieu des créatifs, c'est pas la mode de s'afficher comme chrétien. Mais bon, il y a des nouvelles générations qui s'affirment parce que il y a ce nouveau média qui est l'Internet. Moi, il me semble que l'Internet, les nouvelles technologies de communication ont bouleversé un peu ce champ médiatique auparavant restreint pour les chrétiens. Avant, il y avait les journaux chrétiens à audience ciblée ou la possibilité de gens comme Noël Coppin, Jean Fredo, d'être chrétien discrètement dans les médias généralistes. Mais aujourd'hui, avec le web, ce qui change, c'est cette expression libre, un peu plus libérée, plus militante, partiale aussi, sans doute. Mais bon, elle investit le monde des communicants par deux biais, voilà, ses blogs et puis des groupes de pression. Et puis, il y a les vedettes. Alors, ces vedettes qu'on voit sur le petit écran, qui sont sur les plateaux de télé, qui acceptent avec le sourire les diverses sollicitations, qui mettent leur image au service de leur foi communicative. Voilà, qui aurait pu parier sur le succès d'un film comme Des Hommes et des Dieux? Qui aurait pu croire, et moi le premier, que 3 prêtres chanteurs vendraient plus de 800 000 CD? Il y a le coming out des cathos. Ça, c'est un titre assez récent du Nouvel Observateur. Coming out des cathos. Donc, c'est pas parce que le Nouvel Observateur le titre, surtout avec ses dernières affaires, ses derniers démêlés, que c'est incontestable, mais quand même, ça dit quelque chose. Voilà, sur un mode très personnel et volontiers surprenant, qui chatouille parfois les chrétiens, et moi je vois bien que ça chatouille les catholiques pratiquants, puisque la radio est à la maison diocésaine, et on voit que ça en énerve certains, parce qu'il y a le visage lumineux de sœur Marie Simon-Pierre, vous savez, la miraculée de Jean-Paul II, mais il y a aussi Frigide Barjot, comment ne pas en parler, un petit peu la plus déjantée des défenseurs de Benoît XVI, vous voyez, l'éventail est large, pour le meilleur et pour le pire, diront certains. Alors ces familles témoignent d'un constat, d'une conviction, les chrétiens ont leur place dans la vie sociale, ils savent la tenir, qu'ils soient anonymes ou plus reconnus. Mais outre ces familles de chrétiens qui se frottent à leur manière aux réalités du monde, il y a les élus. On en vient aux élus. Alors, à l'heure où la classe politique paraît de plus en plus critiquée, loin des polémiques et du bruit médiatique, il y a quand même encore des femmes, des hommes chrétiens qui réfléchissent au sens de leur action à la lueur de l'évangile. Et là, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Ici, en Haute-Savoie, c'était le cas le 9 mars dernier à La Roche-sur-Foron, il y a un forum des élus. C'est pas très connu, parce qu'eux-mêmes ne souhaitent pas forcément que ce soit très médiatisé, parce qu'ils ont pas toujours mis ça. Ils sont pas toujours identifiés comme tels dans leur municipalité ou dans leur engagement. Mais ce forum des élus a réuni une centaine de personnes à La Roche-sur-Foron. Et au regard des participants, c'est ce que j'en ai vu, ils couvrent quasiment toute la palette de l'échiquier politique. Moi, la question que je me suis posée et que j'ai essayé de leur poser, c'est qu'est-ce qui rassemble ces hommes et ces femmes politiques? Ce qu'ils me disent, c'est sûrement pas la volonté de créer un groupe de pression chrétien. Voilà, c'est l'une des premières choses qui revient. Quelques petits témoignages que j'ai griffonnés, donc c'est pas littéral ce que je reproduis, mais quelques notes que j'avais prises, puisque je savais que j'allais venir ici. Quelqu'un me dit « Je ne porte pas ma foi en étendard, et je suis très attaché au principe de laïcité. » Enfin, ça revient beaucoup. « Cela dit, les valeurs chrétiennes irriguent ma vie, et donc mon engagement. En permanence, j'ai besoin de relire mon action publique à la lueur de l'Évangile. Cette recherche de cohérence, c'est une chance de la mener avec d'autres élus. » Autre témoignage, « Mon mandat répond à une vocation qui enchaîne un autre. Aussi, il faut savoir revenir à l'essentiel. Comment être fidèle aux enseignements de notre Église dans l'exercice de notre responsabilité, de nos responsabilités, tout en respectant l'état laïque. » Vous voyez, cette notion d'état laïque revient souvent. Ils ont très peur d'être attaqués sur leurs décisions politiques en fonction de leur confession. Autre témoignage, mon sentiment, c'est que ces élus chrétiens se retrouvent tous un jour confrontés à des cas de conscience, c'est-à-dire lorsque la foi vient concurrencer l'idée qu'il se fait du bien commun. Et là, il a besoin d'être éclairé, d'où l'utilité, disent-ils, de ce forum, d'où l'utilité d'en parler avec un prêtre, certains le disent très clairement. Ce prêtre-là disant que l'Évangile rejoint la vie politique en ce qu'il invite à une humanité toujours plus fraternelle. On redécouvre que les valeurs chrétiennes ont ensemencé nos démocraties à travers les notions de droit de l'homme, de justice et d'égalité. Voilà, alors moi ce que j'ai envie de leur dire, c'est pour autant, ce dynamisme, c'est pas forcément lié à une formation confessionnelle. Autre chose qui revient chez beaucoup d'entre eux, c'est l'idée d'être au service des autres. Pour eux, la foi, ça offre une plus-value dans des actions très concrètes. Alors, deux exemples un peu concrets. Là, on s'éloigne vraiment des études bibliques. Mais quelqu'un me dit, moi, j'ai aidé une trentaine de foyers à accéder à la propriété grâce au passe foncier. Et maintenant, je m'attaque à la précarité énergétique qui touche les foyers les plus modestes. Je le fais aussi, je m'engage dans ces actions-là, parce que je suis chrétien. Une autre se bat pour changer la voirie et les transports publics afin d'y faire un accès prioritaire aux handicapés, aux personnes âgées, aux enfants et aux cyclistes. Vous voyez, des choses très basiques, mais ces gens sont là, dans ce forum, des élus chrétiens, prennent la parole et disent, moi, faut pas chercher très loin, voilà ce que je fais, et moi je me sens pleine de mon action politique, mais aussi de ce qui a nourri ma vie jusque-là, de ce que je crois. Alors il existe peut-être pas de politique chrétienne, j'en suis même assez certain, ce sera un peu facile, mais il existe bel et bien une manière chrétienne de faire la politique, et ça, ils le disent, et ils trouvent que c'est déjà une belle aventure. Reste cette question, je suis un peu passé vite tout à l'heure, comment ces dirigeants vivent-ils leur foi dans leur engagement public, étant donné... comment ils osent l'afficher publiquement, comment ils osent afficher publiquement leurs convictions religieuses, s'ils puisent leur force d'action dans la religion, sont-ils pour autant prêts à l'assumer publiquement? Alors certains, mais ce sont les plus anciens, me semble-t-il. C'était sans doute peut-être plus facile, ou c'était lié à un parcours. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de ces élus politiques qui étaient engagés dans des mouvements et des services, Action catholique ouvrière, etc. Et c'était un parcours qui les conduisait après à prendre des responsabilités dans des conseils municipaux. Je vois par exemple le patron du Parti Socialiste, ici en Haute-Savoie, le jeune patron du Parti Socialiste est passé par la jeunesse ouvrière chrétienne. Voilà, un choc. Mais pour lui, pour l'avoir rencontré deux, trois fois, c'est plus délicat de s'afficher chrétien. D'ailleurs, il ne le dit pas. Nous, on l'a su parce qu'il est venu dans nos studios faire une interview et il nous a commencé à nous parler du nom des salles qui étaient dans la maison diocésaine. Donc, bon, faut déjà avoir fréquenté un peu la maison diocésaine pour connaître le nom des salles. Et donc, je me suis permis de lui poser la question. Il dit oui, je suis passé par la JOC. Voilà. Pour d'autres, et là, les plus âgés, s'afficher chrétien, pas de problème. De toute façon, pour moi, c'est pas négociable. Mon idéal, c'est vraiment la dignité de l'homme dans laquelle. Mon engagement, voilà, dans mon engagement, j'essaye de voir le visage du Christ. Certains ont des paroles très très fortes, comme ceux-ci, qui m'ont marqué. D'autres disent, moi j'ai un devoir d'honnêteté vis-à-vis de mes électeurs. Ça serait leur mentir que de cacher ma foi. Mais à l'inverse, c'est ce que je vous disais, il y a d'autres dirigeants politiques qui refusent vraiment d'afficher leur foi. Ils ne font pas mystère de leurs convictions dans un cercle restreint. Mais ils s'imposent. Mais c'est même une gymnastique qui s'impose une stricte discrétion religieuse au nom de la séparation entre la sphère publique et de la sphère privée. Il faut bien le dire, je prenais cet exemple du patron du PS, du nouveau patron du PS ici en Haute-Savoie, Guillaume Matelier. Plus rares encore sont les hommes et femmes politiques chrétiens de gauche à exposer leur foi. Voilà, c'est un constat que je fais. Enfin, c'est plus délicat, ils vont en parler moins ouvertement. C'est pas un jugement, hein. Je vous dis ce que je constate, ce que je rencontre. Et dans notre pays, enfin, la Haute-Savoie n'est peut-être pas non plus le lieu laboratoire pour observer cela, compte tenu de la représentativité politique. Mais pour en parler avec quelques collègues, l'appartenance à la religion chrétienne démarque quand même toujours un petit peu la classe politique. Ce qui n'empêche pas les chrétiens ou les élus chrétiens de gauche d'en parler, de le regretter. Mais ils se retrouvent souvent, disent-ils, écartelés entre les positions éthiques des églises, et en particulier de l'église catholique, et soutien affiché par leur parti. Voilà, le dilemme, voilà, vous l'avez compris, concerne le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Là, ça a été vraiment assez criant. Guillaume Matelier, qui était invité, il vient d'être élu patron du PS de Haute-Savoie, il est l'invité du jour chez nous, comme n'importe qui, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure. Sur notre antenne, 30% de foi chrétienne, et autrement, beaucoup de choses, de questions sociales, et forcément, quand on s'intéresse aux problèmes de société, la dimension politique rentre en compte. Et on lui pose la question, bien obligé. Et il me dit, alors, tout ce que vous vivez, là, cette manifestation, on dit qu'il va y avoir beaucoup de monde, et il me dit, beaucoup de bruit pour rien. Bon, voilà. Mais en même temps, il a ce parcours-là. J'ai presque fini. D'autres, voilà, ces élus chrétiens de gauche disent aussi, bon, il y a cette question du mariage, il y a cette recherche sur l'embryon, l'égalisation des mères porteuses, l'euthanasie, voilà. Ce sont vraiment ces questions éthiques qui font qu'ils ont du mal. Voilà. Après, ils sont assez à l'aise avec ce qu'ils peuvent trouver dans l'évangile. Mais c'est vraiment aujourd'hui, ici, que ça bloque pour eux, pour s'afficher peut-être plus clairement chrétien. Certains allant même dire, mais ça restera entre nous, vous savez, moi je suis un clandestin au sein du PS. Bon, voilà. L'important n'est cependant, me semble-t-il, pas de brandir sa foi, il s'agit plus de le vivre en acte, peut-être, dans l'exercice de ses mandats. Et là, en tant que journaliste, on s'attache peut-être plus à ça, à réalité ce qu'ils font. Et après, ça n'est pas à nous de dire, même si on est sur un média chrétien, qui sont les bons, les moins bons, etc. Voilà. Mais, comme pour les autres sphères de ces engagés, ces chrétiens élus de droite et de gauche pèsent sur la vie politique. Me semble-t-il, leur influence est bien plus forte qu'on ne croit. Alors certes, on est en Haute-Savoie. Mais n'empêche, où il y a encore une certaine tradition, ils pèsent encore, sans claironner forcément leur religion, ils distillent leurs valeurs dans les domaines où s'incarnent leurs convictions, une sorte de place centrale aussi de l'homme dans la société, dans l'économie, dans ces lois qui touchent à l'homme. Et là, je me situe pas dans une dimension historique, mais bon, dans la construction européenne, ça aurait été un très bon exemple. Et puis la politique, ça implique aussi aujourd'hui la confrontation avec d'autres religions. Donc là, c'est pas un exemple que tient de Haute-Savoie, mais c'est un témoignage que j'avais relevé. Celui de Jean-Marie Bockel, qui est sénateur du Haut-Rhin, qui lui fait partie de la gauche moderne, qui se souvenait dans un article de ses états d'âme lorsqu'il était maire de Mulhouse. On est là dans le Haut-Rhin. Il a fallu qu'il compose avec les représentants d'un islam assez fondamentaliste. Et il dit, moi, leur extrémisme m'indisposait. Moi, je suis un chrétien défenseur de la laïcité. J'avais du mal avec eux. Mais n'empêche, ils représentaient quelque chose dans la population locale, dans la population de ma ville. Alors, quand on est un homme politique, on ne choisit pas ses interlocuteurs. Et j'ai fini par discuter. Alors, je leur ai accordé un lieu de culte, mais j'ai refusé de céder sur d'autres points, comme la réservation d'heures de piscine à leur attention. Un témoignage que j'avais pris en note. Mais bon, les paroles des élus chrétiens comptent encore et sont, me semble-t-il, attendues. Attendues par beaucoup de nos concitoyens. Ça, je le vois aussi dans les témoignages en retour qu'on a des auditeurs. Il y a quand même un besoin de boussole. C'est-à-dire qu'il y a aussi des appréciations de ce qu'on fait chez nous, qui sont, tout à l'heure je disais, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, mais il y a aussi, si je veux être tout à fait honnête, des gens qui disent, montez des débats, faites se confronter aussi des points de vue, donc il y a ce désir, d'avoir une parole chrétienne au sens large, comme un peu une boussole dans ce monde-là. Et pour terminer, voilà, foyer politique, élus ou non, ils sont assez nombreux encore à concilier les deux, à s'investir dans les affaires de la cité au nom de l'intérêt général. C'est une notion qui décline l'amour du prochain un peu au collectif. C'est sans doute difficile, parce qu'il faut aussi la décliner au collectif. Mais s'il y a une fois, il y a des voix. Dieu, pour moi, pas de carte d'électeur, la Bible n'est pas un programme politique, les églises ne sont pas des partis, et à chacun de juger en conscience qui incarne le mieux ou le moins mal, ces exigences que j'ai essayé un petit peu de vous faire partager, ces exigences que j'ai observées sur ces 10 dernières années de mon poste, voilà, qui est de fréquenter un petit peu la cité ici et de relater de ce qui s'y passe. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci Stéphane, toi qui me disais en octobre vraiment pourquoi moi, qu'est-ce que j'aurais à dire, moi je t'écouterai jusqu'à ce soir, et même peut-être plus. Et puis effectivement, si des gens comme moi écoutent beaucoup plus RCF qu'autrefois, c'est parce que justement, grâce à Stéphane Tremblay, c'est une église, c'est une radio qui a un pied dans l'église et un pied dans la société, ce qui nous convient bien pour nous, hein, bien sûr. Alors, voilà le moment des questions. Le fil est un petit peu court, donc j'aimerais que ceux qui veulent poser une question viennent se rapprocher un petit peu pour qu'on entende la question, pour qu'on comprenne la réponse. Question ?
Bonjour.
Vous avez beaucoup parlé, je crois que c'est l'essentiel actuellement au niveau du débat, de tout ce qui est mariage pour tous. Je suis catholique, mais très attachée à toutes les autres religions que j'estime connaître un petit peu grâce justement à toutes ces réunions, à l'amitié judéo-chrétienne, etc., et à mes connaissances personnelles. Bien évidemment, je suis contre le mariage pour tous. En tant que chrétienne, mais cependant, étant donné que j'ai l'esprit, je veux dire, humaniste, étant donné que les religions sont séparées du civil, donc des instances politiques depuis 1905, je crois, eh bien, libre à eux de pouvoir mettre en œuvre cette loi, enfin bon, ne serait-ce que pour faire pose une question. Un homme et une femme, ce sont deux lignes qui convergent pour s'unir et procréer. Un homme plus un homme, ce sont deux parallèles. Une femme plus une femme, ce sont deux parallèles. Vous avez déjà vu des parallèles se rencontrer pour procréer? Pourrais-je me permettre d'ajouter, en citant Vercors, les animaux... Oh, attendez, il faut que je me souvienne. Les animaux font un... Je l'ai déjà écrit, alors je dois vraiment m'en souvenir. Les animaux font un avec la nature. Malheureusement, de plus en plus, les êtres humains se comportent comme des animaux dénaturés. C'est Vercors qui l'écrit.
Je ne vous ferai pas une réponse parce que je ne suis pas là pour donner mon sentiment personnel sur cette question. J'ai essayé justement dans mon propos de ne pas faire trop référence à cette question du mariage pour tous, même si je savais pertinemment qu'elle reviendrait très vite. Et moi, je trouve ça plutôt intéressant des gens qui se posent la question. Ce n'est pas moi ici de trancher. Je peux juste partager ce que j'ai observé là-dessus. Il peut paraître... semble un petit peu regrettable que toute la place n'ait pas été donnée au débat et que la prise en compte des différentes confessions, qu'on voit comment ont été reçues les principaux leaders, les principaux représentants des cultes en France à l'Assemblée nationale, entre le café et la poire, entre le dessert et le café, c'est un petit peu regrettable compte tenu des écrits que j'ai pu lire. Il y a eu des textes très très intéressants qui ont été publiés sur cette question. Donc il est un petit peu regrettable que ceux qui avaient voulu en savoir plus, il aurait été rétorqué. Mais c'est des questions qui sont aussi survenues dans le débat que j'ai animé. C'était dans le programme. Je pense que c'était dans les 60 engagements. Donc... voilà, moi je trouve que le débat, quel que soit le résultat, parce qu'après il faut respecter aussi le principe qui régit notre démocratie, il est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de place qui était donnée au débat. Alors peut-être par peur, mais peut-être pour d'autres considérations qui me semblent un petit peu moins nobles. Moi je retiens, j'en ai brièvement touché quelques mots tout à l'heure, la qualité du débat qui avait eu lieu sur les lois de bioéthique et qui a donné lieu à un certain consensus. Voilà, il faudra voir comment évolue cette loi Leonetti, mais sur la question du mariage pour tous, je dirais même dans l'église que je connais un petit peu mieux, l'église catholique, les points de vue sont très très divergents. Donc on a peut-être, c'est vrai qu'une manifestation de 600-700 000 personnes, enfin je ne vais pas me battre sur les chiffres, je ne vais pas faire, voilà, ça fait du bruit, ça se voit, mais au-delà de ça, nous qui sommes des petits acteurs de terrain et qui... dans nos petits studios perchés sur la colline, recueillons différents témoignages de chrétiens. Je crois que les manifestants ne représentent pas la pensée exacte et précise de tous les catholiques, notamment, et vous l'avez souligné, madame, sur la question de l'enfant. Je crois que, y compris parmi quelques responsables ecclésiaux, la question de l'égalité des droits aujourd'hui, même si le monde n'est pas comme ça sur la place publique, ne fait pas débat, c'est le mot mariage qui les crispe, qui les chatouille, et je peux le comprendre, cette notion de sacré. Et puis une deuxième chose, c'est la question de l'enfant, qui pour beaucoup a été un petit peu zappé. Voilà. Donc moi je veux partager un petit peu ce que j'ai pu entendre, et pas mon avis personnel. Je dirais même qu'au sein de quelques curés, certains, pour eux, l'Église n'a pas à se mêler de ça. C'est pas ce, voilà, l'Église a d'autres choses à faire. Voilà. Donc il y a aussi dans l'Église, je disais l'Église catholique que je connais un peu mieux, des approches et des points de vue différents. Et certains en appellent à ce côté qu'il faut retourner les choses et il faut peut-être que nos Églises s'attachent à montrer la beauté du mariage religieux. Qui est un petit peu omis par ces questions qui sont que des droits. Voilà. Ce que j'ai pu entendre en suivant ce dossier et ce sujet, Et moi-même, j'ai été très très étonné qu'il y ait autant de monde, cette salle Pierre Lamy. J'y allais un peu sur la pointe des pieds, parce qu'il fallait bien un médiateur. Mais 300 personnes, à 20h30, un mardi soir à Annecy. Ma volonté avait été de mettre autour de la table, non pas des représentants des églises, mais des gens qui, excusez-moi l'expression, scoltinaient un petit peu ces réalités sur le terrain. Donc il y avait un notaire qui nous a expliqué ça sous l'angle du droit. Ça ne va pas s'en changer et remettre en cause des choses qui ne passent pas au journal de 20h, qui régissent l'organisation de notre société, en termes ne serait-ce que de transmission de patrimoine. Voilà, donc il y a une sorte de remise en cause, enfin une adaptation à faire, il y aura des conséquences. Il y avait la question de l'altérité, vous l'avez souligné, l'altérité, il me semble que tout n'est pas une question d'amour, c'est ce que nous disait un conseiller conjugal, quelqu'un qui suit ces questions, question de l'altérité qui est peut-être aussi importante dans la construction d'un être, même si je pense que il est possible, il n'est pas question de comparer la puissance d'amour que peut donner un couple hétérosexuel ou homosexuel, mais il y a aussi des questions qui sont moins dans l'émotion, mais voilà, c'est ce qu'il disait, hein, je reprends ses propos. Voilà, donc ça illustre un peu ce qu'on essaye de faire, parce que non pas parce que ça nous fait plaisir de le faire, mais parce qu'on sent que des gens ont envie d'entendre des choses qui soient plus de l'ordre de la boussole, et qu'en fonction de ça, eh bien après, ils se prononcent et ils votent parmi l'offre qui est proposée. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas l'Église, les églises ne sont pas des partis, il n'y a pas un parti qui reflèterait, l'Évangile mieux qu'un autre. Donc après, voilà, c'est à chacun de se faire son opinion, me semble-t-il.
Oui, on a bien retenu que tu disais il n'y a pas de politique chrétienne, mais il y a une manière chrétienne de faire de la politique.
Me semble-t-il.
Est-ce qu'il y a d'autres... Tu peux te rapprocher, Lucie, s'il te plaît.
J'ai toujours plaisir d'écouter un journaliste engagé et qui respecte l'opinion des personnes interviewées. Mais c'est sur le plan des outils que je voudrais me placer. Vous nous avez rapporté des actions qui nous encouragent à les accompagner, mais vous avez deux concurrents, enfin deux autres moyens, l'image, qui est répétée en boucle, devient une réalité, même si elle rapporte des faux témoignages. Et vous avez le sondage, d'après les questions, vous connaissez, vous mieux que moi, l'impact des sondages. Alors,
Je veux bien faire un commentaire. Ouais.
Sur le plan des outils.
Effectivement, votre remarque est assez juste. Hein. Il y a le poids des images. On en a eu un bel exemple ces derniers jours avec le nouveau pape François et cette photo où il donne la communion qui a été reprise dans pas mal de médias français pour avoir, me semble-t-il, hier soir, le témoignage de celui qui a pris la photo et qui nous disait que c'était pas le pape. Alors ça veut pas dire que ce nouveau pape, il est pas fricoté, j'en sais rien, moi j'y étais pas. Je suis pas spécialiste, même s'il me semble de manière qu'il faut regarder aussi la trajectoire d'un homme et que, bah, même dans, en France, vu notre histoire, il est parfois difficile de la date d'où on est aujourd'hui d'interpréter certaines actions. Je sais pas, mais là il y a quand même le poids d'une image qui voulait asséner une vérité, comme quoi le pape aurait donné la communion au dictateur argentin, et le fait est que c'était pas lui qui donnait la communion. Voilà. Donc effectivement, et cette image a beaucoup tourné. Donc le poids des images qui sont assénées comme une vérité dans un monde où de chaînes d'information, ces chaînes d'information ont besoin d'images, hein. Ben là voilà, pour ceux qui, même si ça intéresse peut-être moins les protestants, l'élection du pape, on s'y intéresse quand même pour savoir avec qui on va travailler demain, ben voilà, il faut, on envoie des journalistes à Rome, à qui on va lui dire, ben, tu vas regarder des fumées qui vont sortir, puis il va falloir trouver des choses à dire. Donc effectivement, quand vous êtes là et que vous êtes journaliste, vous essayez de dire des choses et parfois il vous arrive d'en dire un peu plus que les faits vous en disent. Voilà, donc c'est aussi cette société où tout doit aller très vite. C'est aussi une société où on met moins de moyens, mais je ferai très court là-dessus, mais on met moins de moyens dans l'information. C'est une société des journaux gratuits, c'est une société de deux ou trois chaînes infos gratuites. Donc aujourd'hui, voilà, beaucoup de ces médias vont travailler avec des agences et ne vont plus envoyer des journalistes sur le terrain. Et donc l'agence enfin l'AFP pour le coup, envoie une dépêche et tout le monde reprend la dépêche. Avant, vous aviez sur un même événement 4 à 5 journalistes qui faisaient une autre musique. Voilà, donc ça effectivement, il y a le poids de l'image et il y a aussi les circuits de l'information. Et puis les circuits de l'information, n'importe qui aujourd'hui peut monter sa petite radio. Vous voyez, vous faites une sorte de radio à la carte, puisque sur le site de l'Église réformée, eh bien, on peut écouter en podcast, comme on dit dans notre jargon, bien les différentes interventions de cette semaine. Donc quelqu'un peut se faire sa petite radio web sur une semaine de politique et religion. Quelle approche on en fait au Temple Annecy. Voilà, donc il y a... Il y a peut-être... alors, il y a moins d'hégémonie de certains médias. On pouvait reprocher que certains médias faisaient l'appui et le beau temps de l'opinion. Mais aujourd'hui, on peut constater qu'il y a aussi, sur le net, le meilleur et le pire, avec des journalistes qui ont de nom... Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait une expression libre. Mais à un moment donné, pour essayer d'approcher une réalité... sans vouloir défendre mon métier et passer pour un, être dans un certain corporatisme, il y a aussi des règles qui voilà, des journalistes pour avoir une carte de presse, il y a différents processus, doivent être liés à une certaine éthique, enfin je rentrerai pas dans les détails. Et puis sur le deuxième point, vous m'avez interpellé...
Les sondages.
Alors les sondages, effectivement, les sondages, pas un jour sans sondage dans notre pays. Si on prend l'exemple du mariage pour tous, on avait des fois 20 points d'écart selon comme la question est posée. Voilà, donc une technique de sondage, déjà un sondage pour qu'il soit vraiment valable, il faudrait qu'il soit fait sur une représentation de 1000 personnes, ce qui n'est plus tout à fait le cas. Et là pareil, les instituts de sondage fleurissent. Avant il y avait 3-4 instituts de sondage avec une certaine éthique, aujourd'hui vous avez des interrogations qui se font par internet. Sans compter qu'on va, vous pouvez participer à un tirage au sort pour gagner une bagnole alors qu'on vous interroge sur un sujet de société capital peut-être pour l'évolution de notre petit monde. Donc voilà, donc là il faut toujours regarder, enfin moi si j'ai un conseil à dire, il faut quand même regarder les sources et regarder quels sont ces instituts et quelle est la technique. La bonne vieille technique de l'interrogation par téléphone qui se base sur une représentation INSEE, c'est-à-dire homme-femme, catégorie socio-professionnelle, etc., aurait quand même toujours plus de pertinence. Et encore une fois, comment est tournée la question ? Vous êtes pour que les homosexuels et les hétérosexuels aient les mêmes droits ? Oui, une majorité de oui. Est-ce que et après on va vous poser la question, est-ce que ça doit être le même mariage et le même droit sur les enfants et l'adoption? Il y a une majorité de non. Donc voilà, donc selon ce que veut en faire, on prendra le sondage qui nous intéresse. Voilà. Donc il faut être vigilant. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être encore plus vigilant pour tous ceux qui sont consommateurs d'informations, et on a bien besoin d'informations, si on s'intéresse aux choses du monde. Et voilà, et là, j'en reviens à notre propos qui est peut-être plus déconnecté de l'actualité. Semble-t-il qu'un chrétien a à se mêler des choses du monde, à au moins de s'y intéresser et à regarder cela. Mais ça nécessite sans doute, vous avez raison monsieur, un certain tri. Et je ne dis pas qu'IRSEF est parfait là-dessus, parce que nous aussi on essaye de ne pas se tromper, mais on a aussi des pressions de différentes franges, hein, chacun a ses intégristes, hein, je veux dire, voilà, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Et on essaye de faire notre boulot, mais je ne me dédouanerai pas de tout. On aurait toujours préféré dire, et quel intervenant ? Vous faites un sujet, vous avez sur la place différents intervenants, vous devez en prendre 4, parce qu'il y a une durée de format. Les gens veulent leur entendre, mais ils veulent que ça se tienne en une demi-heure, une heure, etc. Donc il y a une partie forme, puisqu'il y a le contenu, il y a le fond, mais aujourd'hui, il y a une vraie exigence du public sur le temps disponible pour ces questions-là, qui est peut-être moindre. C'est pour ça qu'une rencontre en direct comme ça, ou la conférence de ce soir, me semble des choses à poursuivre, à continuer. Parce que quand quelqu'un se déplace, quand quelqu'un vient, c'est un peu différent, on ne peut pas zapper de la même façon. Donc il est voilà, c'est bien une société où il y a des médias, plein de façons de s'informer. Pourquoi pas? Parce qu'on peut y voir une certaine, peut-être plus de transparence. C'est vrai que des affaires, si des affaires sortent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une exigence de transparence et il y a des médias qui sont plus nombreux et qui vont sortir des choses. Alors, c'est sans doute bien, hein, dans une exigence démocratique. Mais n'empêche. Résumer des fois certaines histoires à 2 minutes, c'est peut-être un peu court. Donc de mettre en perspective cela dans des rencontres très humaines en proximité me semble un bon travail complémentaire du travail des journalistes aujourd'hui.
Eh ben merci Stéphane, et puis on va remercier Stéphane.